soir, environ 600 000 Congolais sont infectés par le VIH-Sida selon le PNMLS. Pour contrer sa propagation, le président de la République, son gouvernement et tous les acteurs engagés dans la lutte se sont réunis hier à Kinshasa. Parmi les résolutions, on cite notamment le renforcement de la sensibilisation, surtout au niveau des populations locales de base, également la mobilisation des fonds et leur meilleure utilisation. Quelle lecture faire de cet engagement de l'État congolais dans la lutte contre le VIH-Sida? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Pour en parler, nous recevons professeur Liévin Kapend, secrétaire exécutif national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS. Professeur, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les amis de Radio Okapi.
Docteur Léon Moubikaï, député national, il est gynécologue obstétricien et spécialiste en santé publique. Bonsoir docteur Moubikaï.
Bonsoir.
Docteur Henri Mukumbi, médecin spécialiste en santé publique et expert international en VIH-Sida. Il est également directeur exécutif de ASAMO Congo, une ONG congolaise engagée dans la lutte contre le VIH-Sida en RDC. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Pour l'instant, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Environ 600 000 Congolais sont actuellement infectés par le VIH-Sida. Pour contrer sa propagation, le président Joseph Kabila, son gouvernement et tous les acteurs engagés dans cette lutte se sont retrouvés ce lundi à Kinshasa pour une réunion de contre-attaque. Des décisions comme une meilleure appropriation du problème au niveau communautaire ont été prises. Donna Madimba.
En 2 heures de travail dans les locaux du programme national multisectoriel de lutte contre le sida à Kinshasa, le président Kabila, le gouvernement et tout le gotha de la lutte contre cette maladie en RDC se sont mis d'accord. Il faut désormais renforcer l'appropriation du problème, surtout au niveau des populations locales de base, mobiliser plus de fonds et mieux les utiliser en évitant de les laisser volatiliser. Tout cela selon Liévin Kapend, directeur du PNMLS.
Un 500 000 de personnes qui ont déjà l'infection dans notre pays. Il faut absolument que tout le monde participe.
Une prise de conscience ardemment souhaitée par le comité anti-sida qui a travaillé ce lundi à Kinshasa et dont le gouverneur du Nord Kivu explique qu'elle a pour sa province par exemple permis d'observer des résultats encourageants dans un récent passé.
Le Nord Kivu a un taux de prévalence qui s'est situé il y a 5 ans à 5-6%. Maintenant il est en descente vers 3%.
Un espoir que nourrit de son côté Ngoï Kasangi, gouverneur du Kasaï Oriental.
J'ai la ferme volonté, la ferme détermination de m'impliquer.
Cette réunion de ce lundi a aussi permis 2 autres avancées anti-sida en RDC, l'adoption du plan stratégique national 2014-2017, mais aussi l'adhésion de la RDC à la campagne mondiale anti-sida en rapport avec la Coupe du Monde de football qui commence cette semaine au Brésil. Le président Kabila a même à ce sujet posé sa signature sur un exemplaire du ballon qui sera utilisé dans cette compétition.
Merci Donna Madimba. Professeur Liévin Kapend, vous êtes secrétaire exécutif national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS. 600 000 personnes infectées en RDC. Comment en est-on arrivé à ce chiffre malgré tous les efforts qui sont fournis dans ce domaine?
Oui, merci à Radio Okapi. Comment on est arrivé à ce chiffre? C'est tout simplement parce que sur le plan de la prise en charge, il faut plutôt considérer que ce chiffre est plutôt à une tendance à la baisse. Hein, parce qu'au départ, on était à des chiffres beaucoup plus élevés. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'avec surtout la sensibilisation, on a pu éviter beaucoup de nouvelles infections. Et il y a aussi les efforts qui sont fournis dans le domaine de la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant, tout comme dans le domaine de la prise en charge en ce qui concerne les soins et traitements.
Alors, pourquoi avoir tiré cette sonnette d'alarme jusqu'à mobiliser le président de la République et tout le gouvernement, tous les gouverneurs presque étaient là? Pourquoi tirer cette sonnette d'alarme, docteur?
Non, je ne crois pas que ce soit une sonnette d'alarme. L'exercice qui s'est passé hier est un exercice tout à fait normal, n'est-ce pas, qui répond aux directives que lui-même le président de la République a donné en ce qui concerne le fonctionnement du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Et ce programme a comme organe de décision le Conseil, justement, qui s'est réuni hier. Et donc, pour pouvoir suivre ce qui se passe en matière de lutte contre le sida, cette structure doit se réunir, hein, et en principe, tous les deux ans. Et donc, nous sommes au mois de juin, il était tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'on puisse avoir cette réunion.
Alors, il y a un de vos confrères, Dr Denis Bangala, qui nous écrit du Canada, qui dit, mes trois questions s'adressent au professeur Liévin Capinde. 1. Selon vos statistiques, environ 600 000 Congolais sont infectés par le VIH-SIDA. Le professeur peut-il nous dire combien sont porteurs et combien sont déjà sidéens? Ou simplement, vous ne faites pas la différence entre porteurs des virus et un malade du SIDA? Deuxièmement, les statistiques couvrent toute l'étendue de la RDC. Nous savons bien qu'il y a manque de centres de dépistage du VIH ou de personnel qualifié. Pour effectuer ce dépistage, le professeur peut-il nous confirmer que ce chiffre représente toute la RDC? La troisième question, pouvons-nous savoir quel est le taux des nouvelles infections pour évaluer si la maladie est en progression ou en recul, professeur?
Bien, merci. Quelles différences sont faites entre disons ce qu'il a demandé donc en ce qui concerne les malades et les personnes dépistées? Disons que dans le pays, il se comprend parce qu'il n'est pas dans le pays, il ne sait pas exactement ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, nous avons des campagnes de sensibilisation, de dépistage. Et donc, ces campagnes de dépistage permettent de dépister les personnes qui sont porteurs de porteuses de virus.
Et quand vous dites sur terrain, professeur, c'est-à-dire même dans le Congo profond?
Même dans le Congo profond, là où nous avons la possibilité, parce qu'on a des zones quand même d'accès parfois difficiles, mais là où nous arrivons, on arrive à faire les campagnes de dépistage. Et donc, les malades, le sida, c'est en fait un stade très avancé de la maladie, hein, où en fait les personnes sont obligées d'être prises en charge dans les milieux hospitaliers. Et donc, nous avons les chiffres que nous avons donnés concernent les personnes dépistées, n'est-ce pas, qui sont...
sur toute l'étendue du pays.
Oui, disons, il doit savoir que nous le faisons avec des statistiques. Donc, nous avons, à partir d'un échantillon représentatif, n'est-ce pas, on arrive à faire les projections sur l'ensemble du pays. Alors, en ce qui concerne le manque de dépistage, je crois que je l'ai dit, c'est tout simplement par manque d'information. Hein, le dépistage se fait effectivement. Hein, pour cela, il suffit de visiter quelques zones de santé. Je pense qu'il va plutôt avoir un avis contraire. Quant aux nouvelles infections, disons que pour le moment, nous pensons qu'il y a plutôt, les tendances sont plutôt à la baisse. Parce que nos statistiques montrent effectivement qu'il y a une déclinaison, n'est-ce pas, de la courbe de prévalence, hein, dans le pays depuis quelques années. Et cela a été soutenu, notamment par les projections qui sont faites ailleurs, notamment à Atlanta, donc avec l'EDS, tout comme avec le travail qui est fait localement, hein, dans le programme national du ministère de la Santé, où les enquêtes sont menées chaque année, hein, dans les services de maternité pour vérifier, n'est-ce pas, le taux de prévalence.
Alors, à ce jour, professeur, de façon générale, quel bilan peut-on dresser de la lutte contre le sida en RDC?
Bien, le bilan par rapport à la lutte contre le sida, comme je disais tout à l'heure, la tendance est plutôt à la baisse. Mais ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'en fait, si le pourcentage baisse, hein, le volume reste malgré tout important. Parce qu'il suffit de s'imaginer que notre pays a environ 60 millions d'habitants, hein, et c'est en fait comme ça qu'on arrive à avoir ces chiffres de 600 000 personnes. Et donc vous comprenez que pour un État, hein, prendre en charge 600 000 personnes, c'est une lourde charge. Par contre, vous avez des pays où vous avez, je prends un exemple, Seychelles, même si on vous dit que ce pays a un taux de prévalence très élevé, hein, vous imaginez donc avec 80 000 personnes, même si on vous dit qu'ils sont à 50%, ça ne représente que quelques 40 000 personnes. Hein, et donc, malgré tout, les charges sont différentes. Hein, par rapport au pays.
Docteur Léon Moubikaï, vous êtes député national et également gynécologue obstétricien et spécialiste en santé publique. Docteur, pour vous, quel bilan vous dressez de la lutte contre le sida en RDC à ce jour? Docteur Liévin Capinde affirme que la tendance est à la baisse.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je pense que si nous considérons les chiffres d'une façon brute, je peux aussi les soutenir, mais reste à savoir si nous sommes partis avec les chiffres vrais dès le début. Parce qu'on est parti de plus de 4%, aujourd'hui on est à 1%. Même quand on dit que c'est 600 000 malades, ça ne veut rien dire que 1,1% qui est tiré de l'enquête les enquêtes sur le terrain à partir des sites sentinelles dans la communauté, dans une population tirée d'une façon aléatoire, et on a ces chiffres-là. Mais reste à savoir si ces chiffres représentent vraiment la vérité sur le terrain, parce que il y a des provinces qui sont très atteintes, il y a aussi des provinces qui ne sont même pas en mesure de faire les dépistages. Je peux vous donner l'exemple de Dingila, dans la province orientale. Il n'y a aucun site où on peut dépister les VIH/SIDA. Et les professeurs peuvent le vérifier parce qu'il doit avoir toutes ces données avec lui. Donc, c'est un chiffre que nous pouvons prendre quand même un peu, entre guillemets, avant de les confirmer. Je pense que c'est mon point de vue. Parce qu'on est parti très vite, même s'il y a eu une forte sensibilisation, on est parti trop vite de 4% à 1%, et on ne voit pas sur terrain qu'est-ce qui a beaucoup changé. En fait, moi, je suis en train de me demander si le chiffre de début était un chiffre réel ou c'était un chiffre politique pour attirer l'attention de nos partenaires. Donc, si c'était un chiffre comme ça politique, j'accepte que le chiffre actuel est réel.
Et donc, de votre point de vue, docteur Léon Moubikaï, on ne devrait pas faire foi à ces chiffres, à ces statistiques?
Non, on peut faire foi. La méthode utilisée actuellement, je sais que l'école de santé travaille beaucoup sur le terrain, on peut faire foi aux chiffres actuels, mais je vais dire que nous sommes partis avec un faux chiffre. Selon ma façon de voir les choses, déjà en 2006, 2005-2006, on est à 4%. Aujourd'hui, on est à 1,1%. Pour faire cette projection-là de 600 000, donc c'est pas pour dire qu'on a dépisté 600 000 personnes, ce sont les chiffres statistiques. Si ce chiffre est réel, je pense qu'on est parti avec des fausses bases.
Alors, puisqu'on s'est réparti sur des fausses bases, docteur, de façon générale, pour vous, le bilan, comment vous l'exprimez par rapport à la lutte contre le VIH-SIDA en RDC? Il est positif, il est négatif, il est mitigé?
Vraiment mitigé pour moi, parce que il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. J'étais en train de parcourir les sites de dépistage dans ces pays. Moi, je peux vous donner l'exemple de mon territoire. Je vous donne un exemple. Pour l'Uebo, il y a un seul site de traitement. Et quand PNMLS veut faire ses rapports, ou quand PNLS veut faire ses rapports, il y a un programme très technique que j'apprécie beaucoup par rapport à d'autres. Quand ils veulent faire les rapports, ils disent « ma zone de santé de l'Uebo est couverte », donc qui est pratiquement un territoire, est couverte parce qu'il y a un centre de traitement. Mais mettez-vous en tête qu'un malade doit partir de 80 km. Mon territoire est très grand. Il doit partir de 80 km. Une maladie invalidante, il doit partir de 80 km pour atteindre les centres où il peut prendre son traitement. Il doit faire plus de 5 kilomètres pour aller se faire dépister. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et je pense que le professeur est d'accord avec moi qu'il y a beaucoup à faire. Il faut qu'on travaille suffisamment.
Et donc, docteur, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le bilan est mitigé. Sur quel point on peut placer les faiblesses au niveau de la sensibilisation, la prise en charge des PVV, dans la lutte contre la prévalence de la mère à l'enfant? Sur quel aspect exactement?
Je pense que pour ce qui est de certains aspects sont très positifs, comme la PTM, ce que vous venez de dire là, la prévention de la transmission des mères à enfants, parce que presque tous les pays ont les programmes, sauf quelques points où, comme je venais de vous donner ici l'exemple de Dingila, par exemple, il y a tout un district sanitaire qui n'a pas ce centre-là. Oui, il y a des points positifs, mais la prise en charge curative pose encore beaucoup de problèmes. Je pense que aujourd'hui nous pouvons lancer ce que nous voulons lancer comme campagne pour sensibiliser. Mais ce pays a eu 105 millions de dollars. 105 millions de dollars. Et je crains que on relance ça pour soutenir certaines campagnes. Parce que quand on parle de la sensibilisation, ce qui est curieux, c'est que dans ce pays, on a pu envoyer l'argent même à l'étranger chez Gato Dupin et les autres, pour faire la sensibilisation des Congolais qui sont à Dingila, qui sont à Kasangulu, qui sont à Luebo. C'est un peu bizarre. Je pense que si on doit lancer ça, qu'on donne, que la population s'approprie d'abord du projet, que ça ne soit pas un projet qu'on traite dans un bureau climatisé ici à Kinshasa, et puis on dit non, on va sensibiliser. Et quand on mobilise les fonds n'arrivent même pas chez les petits qui est au village là-bas, qui doit se faire dépister, qui doit prendre son traitement.
Et donc, docteur, quand vous dites que le PNMLS a brassé beaucoup d'argent, est-ce que vous sous-entendez par là qu'il y aurait des problèmes de gestion?
Oh, un grand problème de gestion, hein. Un grand problème de gestion. Vous savez quand même ce scandale où l'argent est parti jusqu'aux États-Unis et qui n'a jamais été remboursé par un musicien. Vous savez ce qui s'est passé avec les hommes politiques sur place ici, à la période de 1+4. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes et on doit chercher d'abord à résoudre ces problèmes-là. Sur le plan de gestion, on peut mobiliser. Bon, une des stratégies utilisées, c'est de mobiliser les fonds et les utiliser à bon escient. Est-ce que ça sera ça sur terrain? Les soldats, oui, nous en avons entendu dans ces pays, mais ça sera ça sur terrain, point d'interrogation.
Alors, professeur Liévin Kapenda, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bandundouville.
Malonga Koubali de Bandundouville, dans la province du même nom. Comme le gouvernement s'engage pour lutter contre le VIH-Sida dans les pays, donc le PNMLS a échoué dans sa mission, alors que c'est un organe qui soutient le gouvernement pour la sensibilisation et la lutte contre ce fléau meurtrier. Dans ce cas, comment peut-on considérer aujourd'hui le PNMLS qui se trouve presque partout au pays, uniquement pour le dénombrement des victimes seulement?
Oui, professeur, réaction.
Bien, je crois que notre collègue, notre ami de Bandundu a peut-être une mauvaise... un mauvais concept de ce qu'est le PNMLS. Il doit savoir que lui-même fait partie du PNMLS. Hein, le PNMLS est une institution qui a été mise en place par les autorités de ce pays, justement pour s'occuper de tout cela. Hein, considérer que le PNMLS a échoué, ça veut dire la République démocratique du Congo a échoué. Donc ça n'a rien à voir avec des individus.
Hein, et peut-être qu'il voudrait dire et qu'il voudrait exprimer qu'il y aurait des dysfonctionnements dans au sein du PNMLS.
Tout à fait, tout à fait. Je crois que il doit savoir que disons que toutes ces faiblesses ont été prises en charge et toutes ces faiblesses ont été analysées. Hein, et c'est pour ça que s'il est au courant, il sait qu'on a déjà modifié le décret présidentiel en ordonnance présidentielle. C'était justement, cette mesure a été prise pour améliorer les performances du programme national de lutte contre le sida. Il doit savoir aussi que on venait de mettre en place, disons, de produire un plan stratégique national revisé, hein, avec, disons, l'appui d'experts, que ce soit du pays ou de l'étranger, justement pour essayer d'être plus efficient et plus efficace en matière de lutte contre le sida. Donc je pense que il doit savoir que là où il est, hein, il fait partie de l'équipe. Donc il ne peut pas considérer que les gens sont à l'extérieur, parce que au moins nous dire que les choses ne marchent pas, c'est déjà une façon de participer à la lutte contre le sida. Mais s'il faut seulement constater et pouvoir jeter les pierres aux autres, je pense que ce n'est pas une façon de construire.
Alors, docteur Léon Moubikaï, lui, disait déjà que le bilan pour lui était mitigé. Il a soulevé des problèmes, notamment de gestion des fonds, la non-appropriation par la population de cette sensibilisation. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Bien, je pense que nous avons tous vécu toute cette période, et si la réunion a dû avoir lieu, c'est notamment parce qu'on a constaté un certain nombre de faiblesses et que cette réunion devrait avoir lieu pour corriger le tir. Hein, je comprends que on est des zones où il y a pratiquement pas d'activité. Hein, nous le disons tout le temps, c'est un des grands défis. Nous avons à peu près 2,5 millions de kilomètres carrés. Hein, tout le monde connaît ce qui se passe dans le pays. D'abord, la nature elle-même avec les moyens de communication. Hein, aussi, tout ce qui se passe dans le pays, les conflits, tout ce qui se passe. Hein, donc, tous ces défis doivent être relevés pour arriver à être efficaces à 100%.
Et donc, les statistiques devraient être prises avec beaucoup de pincettes.
Beaucoup de pincettes, c'est exagéré. Ça veut dire dans la mesure où les zones qui sont touchées, on arrive à maîtriser la situation. Donc, on ne peut que se fier à ces statistiques. Donc, complètement le mettre en doute, moi, je pense que ça ne relève pas vraiment du bon sens.
Alors, mais professeur, par rapport au problème de la sensibilisation, la population qui ne s'approprie pas ce processus, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, c'est plutôt le contraire que je pourrais dire, parce que les enquêtes, si notre collègue est au courant, il y a déjà une enquête qui a été menée il y a l'année dernière, non, d'abord en 2012, et nous venions d'avoir les résultats de l'enquête de ce collègue de S. C'est quoi, il sait ce que c'est, donc c'est l'enquête démographique sanitaire, qui montre que la population a déjà mieux saisi par rapport aux années passées, le message par rapport à la lutte contre le sida.
Et à quel niveau se trouve la différence? Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps?
Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Ça veut dire qu'on avait un mauvais... l'information n'arrivait pas à atteindre les lieux les plus acculés. Mais avec l'apport des médias, notamment avec les radios communautaires qui arrivent à faire passer les messages, on arrive à améliorer les connaissances de la population. Il faut doit savoir aussi que les efforts ont été fournis pour que les enfants en milieu scolaire soient déjà saisis sur l'information de l'information sur le sida. Donc en fait, les efforts sont en cours. C'est vrai qu'on n'a pas encore couvert tout le pays, mais je pense qu'il faut considérer que les efforts ont déjà apporté quelques résultats palpables.
Alors, docteur Léon Moubikaï a reconnu qu'il y a des domaines où il y a des résultats positifs, c'est notamment dans le secteur de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Qu'est-ce qui fait que dans ce domaine-là, par exemple, il y ait beaucoup plus de résultats positifs?
Bien, je pense que c'est encore une fois l'appropriation de la population. Ça veut dire nous avons la facilité de joindre les mamans lorsqu'elles viennent en consultation prénatale. Et c'est en fait dans ce lieu-là que se passe qu'on applique les stratégies. Et donc, docteur Moubikaï, en tant que gynécologue, il peut avoir plusieurs opportunités de pouvoir rencontrer et pouvoir parler avec les femmes notamment. Et quand on sait quand on parle aux femmes, on a la possibilité, n'est-ce pas, de diffuser les messages beaucoup plus facilement.
Alors, on a vu qu'à cette réunion à laquelle a pris part le chef de l'État, tous les membres du gouvernement, il y avait également les gouverneurs des provinces. Quel rôle ils peuvent jouer à leur niveau?
Bien, cela relève de l'ordonnance présidentielle, comme je disais, qui a corrigé ou qui a modifié le décret de 2004. En fait, partant sous la Constitution, on doit absolument consacrer la décentralisation. Et donc la décentralisation, c'est aussi par rapport à la lutte contre le sida. Donc dans chaque province, le responsable numéro un de la lutte contre le sida dans les provinces, c'est d'abord le gouverneur et le gouvernement de la province. Et dans ce conseil qui est multisectoriel, les gouverneurs doivent pouvoir aussi rendre compte par rapport à ce qui se passe dans leur province.
Allez-y, je vous en prie.
Aussi, insister sur le fait que, d'après les travaux qu'on a menés sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a une forte diversité en ce qui concerne la lutte, même la réponse à la lutte. Et donc, il y a des disparités telles que pouvoir les traiter directement au niveau national consisterait à commettre beaucoup d'erreurs. Donc, il faut que les gouverneurs qui sont sur le terrain, qui connaissent la population, puissent nous aider à mieux orienter les stratégies par rapport à tout ce qui doit être fait.
Docteur Léon Moubikaï, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Cédric Amis, c'est depuis Bukavu. Je trouve que cette initiative lancée par le gouvernement semble importante dans la mesure où elle permettra aux populations de bien se protéger et de mettre des préventions possibles pour faire face à ces fléaux. Mais le problème qui se pose est de savoir est-ce que le gouvernement va capitaliser les fonds nécessaires pour cette sensibilisation, car ce sont des ONG étrangères qui financent de tels projets.
Réaction, docteur Moubikaï.
Oui, notre compatriote a pleinement raison. En fait, je pense que peut-être que le prof n'avait pas aussi bien saisi quand j'ai parlé d'appropriation. Non, je voulais dire les fonds mobilisés, que ces fonds mobilisés cette fois-ci ne soient pas utilisés dans les médias à Kinshasa ou envoyés aux États-Unis pour constituer, pour qu'on chante par Kato et les autres, mais que ces fonds arrivent chez les primaires qui est là-bas, qui attend ça. Les compatriotes ont pleinement raison dans le sens que aujourd'hui, si vous entrez dans les répertoires de prise en charge de VIH-SIDA dans ces pays, il y a trois grands partenaires. Il y a le Fonds mondial, il y a la Banque mondiale, avec, je crois, PAX, et il y a le gouvernement américain. On ne voit pas la part du gouvernement congolais dans ce qui se passe actuellement. Et je crains que cette mobilisation des fonds ne soit orientée que vers ce même partenaire et qui donne cet argent qui doit peut-être traîner dans les bureaux climatisés ici à Kinshasa. Donc, je pense que les compatriotes ont raison. Non seulement le gouvernement doit toujours tendre la main, mais ça doit être intégré. Moi, je suis de la commission socio-culturelle. J'étais content que, par exemple, la vaccination aujourd'hui, grâce à notre lutte, la vaccination aujourd'hui a déjà une ligne budgétaire dans les budgets de ces pays. Et nous pensons que le sida qui fait beaucoup de victimes doit aussi avoir. Vous savez, le professeur sait, il a toutes les statistiques. Ce pays ici n'a que 786 sites de prise en charge des malades de VIH-SIDA. Et tous ces 786 sont tenus par les partenaires étrangers. Le professeur ne peut pas me contredire. Alors que ce pays a plus de 8200 aires de santé. Quand vous faites les rapports, les statistiques, vous allez remarquer qu'il n'y a que 9% de la population congolaise qui est couverte par la prise en charge curative. Et ça, ce n'est pas normal parce que les ARV doivent être considérés aujourd'hui comme tout autre médicament. Il y a 20 ans, la tuberculose ne pouvait pas être traitée dans n'importe quel centre de santé. Aujourd'hui, on s'est dépassé de ça et on estime que c'est une maladie comme toute autre maladie. On doit prendre en charge, on ne doit plus permettre à quelqu'un de faire plus de 5 km, 10 km, 80 km, comme dans mon territoire, pour aller prendre les soins. C'est pas normal. Le gouvernement doit aussi se prendre en charge et avoir des sites rapprochés des malades pour que tout le monde, tout Congolais souffrant de cette maladie, considère que c'est une maladie comme toute autre maladie et qu'il ait droit aux soins médicaux.
Et donc, à vous comprendre, docteur Moubikaï, l'accès aux ARV reste un problème. Et que peut-on dire alors de la prise en charge psychosociale des PVV?
Oh, mais ça c'est encore un problème. C'est encore un problème. Moi, je pense que je dois féliciter beaucoup le programme qui est un service technique de notre du professeur, le PNLS, qui est un programme qui se débrouille très bien, surtout, comme j'ai dit, dans PTM, mais aussi la prise en charge psychosociale. Je crois qu'il y a quand même des avancées significatives. Mais le problème, c'est quoi? On soutient qui? Si vous me soutenez, moi, je suis déjà atteint. Vous me soutenez avec tous les conseils possibles que vous pouvez me donner, mais je n'ai pas droit aux soins médicaux. Je pense que vous n'avez pas résolu le problème. Tous les prêtres, tous les pasteurs peuvent parler de la prise en charge psychosociale. Tous les psychologues du monde peuvent parler. Mais tant que vous me soutenez pour m'accompagner à la mort, ça sont les soins d'accompagnement à la mort. J'aurais préféré être traité et être accompagné seulement à la mort. Voilà au moins ce que moi je peux vous dire.
Voilà, je rappelle que nous ne parvenons toujours pas à joindre Dr Henri Mukumbi, médecin spécialiste en santé publique et expert international en VIH-SIDA. Il est également directeur exécutif de AS Amo Congo, une ONG congolaise engagée dans la lutte contre le VIH-SIDA en RDC. Entre-temps, Dr Liévin Capin dit à cet internaute, Marcel, qui dit au prof Liévin Capin, la prise en charge des PVV n'étant pas globale et le dépistage volontaire étant repoussé, les séropositifs qui se voient marginalisés mais astreints de survivre dans les mêmes environnements que tout le monde n'hésitent pas malgré leur état de nuire aux séro-ignorants. Question, quels sont les mécanismes mis en place par le PNMLS pour lutter contre le VIH à travers le secteur éducatif pour une large sensibilisation et les moyens mis à la disposition des structures sanitaires viables, surtout périurbaines, pour une prise en charge globale, professeur?
Oui, merci à notre internaute. Effectivement, il y a des problèmes de marginalisation, de stigmatisation autour de cette infection à VIH. Mais il doit savoir que, en fait, les responsabilités ou les enquêtes qui ont été menées ont montré que la responsabilité de stigmatisation et de marginalisation sont en fait partagées. En commençant par les PVV elles-mêmes, elles ont une grande part. Il y a aussi les structures médicales et ces enquêtes sont en train d'être exploitées justement pour une nouvelle formulation de la prise en charge au plan psychosocial. Et il y a déjà des projets pilotes qui sont menés justement par l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH. Donc, ces personnes faisant partie de PLMLS doivent considérer que nous avons certainement pris ça en charge, en compte, n'est-ce pas, pour absolument améliorer. Et par rapport à cela, il y a aussi les formations qui sont menées dans les centres médicaux, donc dans les milieux de la santé, qui a été pointé du doigt, notamment par rapport à la stigmatisation. Mais il reste, bien sûr, la part de la communauté qui comprend, qui a compris le problème, devrait aussi participer à faire l'éducation autour de soi. Et ça, au quotidien, je me demande comment nous, dans les bureaux, comme on a dit, climatisés, nous serons à même de joindre tout le monde. Et donc, l'effort qui est fourni, c'est que la participation, notamment des médias, la participation de l'éducation, la participation des cercles de jeunes, n'est-ce pas, pour pouvoir diffuser les messages de lutte contre la stigmatisation et la discrimination.
Alors, à l'issue de la réunion d'hier, on l'a suivi dans le reportage qu'on a diffusé en début d'émission, il y a par exemple le gouverneur Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, qui a déclaré que le Nord Kivu a un taux de prévalence qui se situait il y a 5 ans à 5 ou 6%, maintenant il est en baisse vers 3%. Comment expliquer, docteur Lievin Capin, cette baisse du taux de prévalence dans cette province du pays qui a connu plusieurs affres de la guerre?
Oui, effectivement, je ne peux pas effectivement donner toutes les explications possibles, étant donné la situation qui se passe dans cette province. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les efforts sont très soutenus dans la province du Nord Kivu. La situation, la Nord Kivu a été étant une province en situation humanitaire. Et donc, à ce titre-là, on est un peu plus attentif, n'est-ce pas, pour essayer d'apporter le plus qu'on peut, pour notamment lutter contre les infections. Et nous saluons notamment le travail qui est fait dans la province voisine avec le docteur, le médecin que connaît, le gynécologue, comme notre collègue, n'est-ce pas, qui s'occupe de ces problèmes. Donc, cet aspect, disons, cette façon d'aborder les choses et que la population qui aussi participe largement, et pour ça nous félicitons le gouverneur de Nord Kivu, il participe personnellement à la lutte contre le sida et ça ne peut que porter des fruits.
Docteur Léon Moubikaï, nous prenons une fois de plus pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu Omanyema.
Ça camine de Kindu Omanyema. Il sera difficile de mettre fin à la propagation du VIH-Sida en République démocratique du Congo, car la pauvreté pousse les gens à la prostitution, ce qui est la principale voie de contamination de ces fléaux mortels.
Réaction, docteur Moubikaï.
Oui, merci beaucoup pour la parole, mais j'estime que ce qu'il dit est vrai. La responsabilité n'est pas... Vous savez, le professeur qui est là et dans une structure qu'on appelle PNMLS. Donc, le VIH-SIDA est multisectoriel. C'est pour cela qu'on l'a mis là-bas. Il est multisectoriel, le VIH-SIDA. Ça veut dire que ce n'est pas seulement donner les ARV, c'est pas seulement avoir les femmes enceintes, c'est pas seulement aller dans les écoles et donner l'éducation, mais c'est aussi combattre la pauvreté. C'est une réalité. Les compatriotes ont pleinement raison. Il faut combattre la pauvreté. C'est pas seulement dans la prostitution. La pauvreté amène beaucoup de choses en dehors de la prostitution. Il peut aussi être à la base. Il faut mettre les médecins qui travaillent, qui sont aussi exposés dans les conditions de travail convenables. Ça demande qu'on améliore les conditions de travail des prestataires de santé. Donc, il y a beaucoup d'éléments autour du VIH-SIDA. C'est pas seulement une maladie infectieuse comme on peut la considérer, mais c'est une maladie multifactorielle. Ça demande beaucoup d'éléments. Combattre la pauvreté revient aussi à combattre la propagation du VIH-SIDA.
Docteur Moubika, il y a Docteur Aimé qui nous écrit depuis Paris, qui estime que l'un des principaux défis de la réponse nationale au VIH-SIDA est la trop dépendance au financement extérieur et le faible financement de l'État. Vous l'avez également dit. Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que le gouvernement congolais prend la véritable mesure du défi dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA?
Jusque-là, la réaction du gouvernement congolais n'est pas une réaction à la mesure de combattre le VIH-SIDA. Tant que la main sera tendue, moi je ne vois pas comment on va résoudre les problèmes de VIH-SIDA dans ce pays-ci. Que le gouvernement prenne d'abord ses propres responsabilités pour introduire une ligne budgétaire dans son budget sur le VIH-SIDA. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a une loi. Il y a une loi qui est déjà passée par la Chambre basse, qui est une loi pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA. C'est déjà un élément positif, mais il faut aller jusqu'au bout, surtout sur le plan matériel.
tous ces centres, je vous ai dit, tous ces centres sont financés par les partenaires étrangers. Est-ce que c'est normal dans un pays de ne trouver que des partenaires étrangers en train de prendre en charge votre propre population? Et vous comptez sur cette population-là le lendemain pour que ça soit une population développée et qui doit organiser et se développer à l'interne même. C'est pratiquement impossible. Il faut que les gouvernements prennent en charge la population. Et le VIH-SIDA, c'est une réalité partout au monde. Le gouvernement doit prendre en charge, il ne doit pas toujours tendre la main chez la Banque mondiale, chez le Fonds mondial, le gouvernement américain. Non, il doit aussi mettre la main à la poche pour prendre en charge sa propre population.
Il y a Chris Kaboulo qui nous écrit depuis Kakanda au Katanga. Il dit « L'engagement du gouvernement pour la lutte contre le sida est une bonne chose, mais la paix totale sur l'ensemble du pays serait une mesure d'accompagnement, car partout où il y a des combats, nos mamans, nos filles sont toujours violées par des inciviques. Ceci pose un sérieux problème dans la lutte contre le VIH-SIDA, docteur Mobikai. »
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans la lutte, le professeur peut bien le témoigner, dans la lutte aujourd'hui, la prise en charge des violences sexuelles fait partie aussi de la lutte contre le VIH-SIDA. Et je pense que le compatriote a pleinement raison, il a pleinement raison et il faut qu'il y ait la paix pour qu'on puisse appliquer même tous ces programmes qui sont en cours, tous ces programmes de demande de fonds et tout ça, ça demande quand même. Et je crois que jusqu'à ce moment ici, c'est ça la grande contribution du gouvernement sur l'étendue du pays. En cherchant à avoir la paix, on peut aussi permettre aux gens dans la lutte d'évoluer.
Docteur Liévin Capin, la RDC pourrait-elle arriver un jour à mettre fin à sa dépendance en ce qui concerne à sa dépendance aux partenaires dans la lutte contre le VIH-SIDA?
Oui, nous y croyons parce que c'est déjà en cours. Parce que c'est déjà en cours. Hein, évidemment, peut-être le confrère n'est pas informé. Hein, sous le budget 2014, la ligne de lutte pour le VIH est déjà inscrite. Hein, maintenant, évidemment.
C'est vrai à combien si ce n'est pas un secret?
Non, je n'ai pas le chiffre exact, mais je dois vous dire que la ligne existe et que il y a même eu lors de l'exercice budgétaire. Un point important sur le, par rapport au VIH. Donc là-dessus, je pense qu'on peut se rassurer. C'est vrai que c'est pas évident qu'on va résoudre tous les problèmes au premier coup, hein, mais ce qu'il faut c'est plutôt avoir un message d'espoir du fait que le gouvernement a déjà pris en considération le problème de la lutte contre le sida. Et peut-être pour compléter la réponse de tout à l'heure, le fait que le chef de l'État dirige lui-même le Conseil national multisectoriel, c'est en fait sa part des engagements que lui-même avait déjà pris au niveau international.
Hein, est-ce que ça ne reste pas des actions politiques comme le disait Dr Mobikai?
Je ne crois pas. Le fait que le président de la République puisse demander à un gouverneur ce qui se passe dans sa province, je crois que ça relève déjà d'une implication à mon niveau très 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 élevée. Hein, dans le pays, enfin dans le monde, on sait que le sida c'est aussi un problème de sécurité. Hein, et donc il est pris à ce titre-là pour pouvoir, disons, pour que le chef de l'État puisse diriger le Conseil national.
Mouviri Maté nous écrit de Goma au Nord Kivu. Lui propose la lutte contre la pauvreté dans laquelle la population congolaise croupit depuis des années comme solution. Il dit le sida va souvent de pair avec la pauvreté puisque la pauvreté est en corrélation avec la prostitution, la dépravation des mœurs, la délinquance juvénile. Je pense à mon humble avis que lutter sérieusement contre la pauvreté réduirait sensiblement le taux du VIH-SIDA, professeur.
Il a totalement raison. Il a totalement raison, et cela a déjà été à la base du document, peut-être qu'il ne le sait pas, qui s'appelle le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté.
DCRP.
Donc, ce document prend en cause justement la lutte contre la pauvreté comme leitmotiv de mise en place de ce document.
Docteur, je reviens à une autre proposition de docteur Denis Bangala qui nous écrit depuis le Canada. Il dit, la RDC est-elle prête pour regarder et explorer d'autres programmes qui se font ailleurs comme au Sénégal? Car nous savons que le Sénégal a depuis 25 ans maîtrisé son taux d'infection et de prévalence du VIH-SIDA à moins de 1% comparativement à la moyenne africaine qui se situe aux environs de 6%, professeur.
Oui, je crois que le pays est très très engagé par rapport à la lutte contre le sida. Mais ce qu'il faut savoir, il serait imprudent de transposer ce qui se passe dans des pays comme le Sénégal. Vous pouvez parcourir le Sénégal en une journée, une semaine tout au plus, ce qui n'est pas le cas avec notre pays. La population dans son ensemble, ce n'est pas celle de la population de la RDC. Et donc, effectivement, nous sommes en contact avec nos amis du Sénégal pour voir exactement qu'est-ce qu'ils amènent comme nouveauté en matière de stratégie. Mais il y a, comme nous disions tout à l'heure, n'est-ce pas, ces défis constants de la superficie, les défis des moyens de communication, les défis de notre nature même du pays, donc faune, flore et tout ça. Et tout ça, ça constitue des faits qui ne sont pas transposables dans plusieurs pays.
Alors, docteur, à part les défis de la superficie, communication, de la faune et de la flore, quels sont les autres défis qui guettent la lutte contre le VIH-SIDA en RDC?
Oui, il y en a beaucoup. Je peux en citer quelques-uns. Enfin, je peux dire que c'est parmi les... Nous devons reconnaître les efforts qui sont fournis par l'actuel gouvernement en matière d'éducation. Rien que le fait de permettre à plusieurs enfants de rentrer à l'école avec la construction des écoles, les efforts d'améliorer le système de santé, avec les hôpitaux qui sont réhabilités, avec l'équipement des hôpitaux. Je pense que ça fait partie de la lutte contre certains défis, donc la façon de contourner ces défis. Si nous avons une population qui est bien formée, comprenez tout de suite, n'est-ce pas, expliquer le sida, ça va être un problème facile. Mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, lui expliquer le sida, ça prend beaucoup de temps, et même c'est pas évident que vous aurez fini par le faire comprendre ce que le message que vous voulez lui donner.
Y aurait-il d'autres défis au niveau des traditions et des coutumes qui persisteraient, qui auraient la peau dure?
Oui, ça c'est tout à fait évident, parce que comme je disais, dans les milieux les plus reculés, nous avons toujours les justes coutumes. Ce sont des situations que nous rencontrons sur le terrain, où vous avez, je prends un exemple, en matière de mariage, quand vous allez dans nos villages, une fille qui atteint l'âge de 18 ans, on considère que c'est déjà une vieille fille. Et donc à ce titre-là, il faudra faire changer cette mentalité, faire admettre ce que l'État a déjà donné comme loi, de considérer qu'un enfant qui a 16 ans ne pouvait pas aller en mariage. Or, c'est ça qui se passe en réalité sur le terrain. Donc, vous avez ça aussi comme défi, parmi les autres défis.
Et donc, pour clôturer déjà, docteur Lievin Capin, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Et donc, il faut espérer par rapport à la lutte contre le VIH-SIDA en RDC.
Oui, effectivement, il faut espérer par rapport à la lutte contre le SIDA. Évidemment, je ne peux pas... me prononcer par rapport au gouvernement, mais les signes montrent qu'effectivement le gouvernement a pris en compte la lutte contre le sida et va s'engager de façon très sensible par rapport à la lutte contre le sida.
Docteur Léon Moubikaï, vous parliez d'une loi qui serait déjà au Parlement concernant les PVV. Cette loi, d'ici le temps qu'elle sorte, pourrait-elle améliorer la situation des PVV en ce qui concerne leur stigmatisation?
Oui, nous pensons que ça peut améliorer parce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a certaines sociétés qui, pour engager le PVV, engager certaines personnes, on passe par les tests et tout ça, mais je pense que tout ça, ça sera aboli et que ils ont droit à la vie comme tout le monde. Donc, je ne pense pas que ça sera encore... Je pense que ça va améliorer suffisamment la vie des PVV d'une façon générale. Mais aussi, je voulais aussi ajouter, le professeur a parlé de beaucoup d'handicaps que nous pouvons avoir, mais moi, je pense que la volonté politique y est pour beaucoup aussi. La volonté politique y est pour beaucoup. Je pense que si ce n'est pas une théorie, si c'est vraiment une volonté politique, on peut évoluer facilement avec la lutte contre le VIH-SIDA sans limiter sa propagation.
Et donc, pour vous également, il faut espérer par rapport à cette lutte en RDC?
On peut espérer et qu'il y ait la volonté politique pour aller jusqu'au bout. Pas pour mobiliser l'argent qu'on est en train de dire on va mobiliser, mais dans son utilisation, nous voulons voir comment ça sera utilisé.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir Dr. Henri Mukumbi, médecin spécialiste en santé publique, expert international en VIH-SIDA, directeur exécutif de AMO Congo. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Bon, c'était le programme sur la radio de la paix. Au revoir.